France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La scène se passe dans le bus 71 qui va vers Belleville, à Paris, et c'est Thibaut qui raconte, le rédacteur en chef du 18-20, cette semaine. Une jeune femme devant lui téléphone à sa mère, apparemment le téléphone en haut-parleur, si bien que tout le monde en profite. Thibaut demande donc à la jeune femme, gentiment, me demande-t-il de préciser. Il lui demande si elle n'a pas un casque. La réponse a de quoi faire tomber les deux bras. Monsieur, s'il vous plaît, c'est une conversation privée. Moi aussi, ça m'aurait laissé les deux bras ballants. Je fais partie de ces gens, pardon, mais qui se retournent avec un regard interrogateur et désapprobateur vers ceux qui sont en réunion Zoom à la terrasse d'un café, ceux qui regardent défiler des vidéos TikTok, le son à donf dans le métro, ceux qui ont un ampli sur leur vélo. Je vous rassure que je faisais pareil à l'époque des autoradios à plein volume, sauf qu'il y en avait moins. À la gare de Nantes, quand même, un gars a pris 200 euros d'amende. Il conteste pour avoir téléphoné avec son haut-parleur. Mais Thibaut, dans la suite de son histoire, s'est rassis sans rien dire quand les voisins de la jeune femme, du même âge ou presque, ont dit « c'est bon, laissez-la tranquille ». Alors c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on met les téléphones en haut-parleur dans la colonne des incivilités ou dans la colonne de l'époque qui a changé? Est-ce que notre société de plus en plus individualiste, ça on ne le découvre pas, nous dit « bah écoute, je m'en fous, si ça dérange, c'est ma vie et je ne fais de mal à personne ». Ou est-ce que c'est la frontière entre espace d'intimité et espace public qui est de plus en plus floutée? C'est quoi aujourd'hui l'espace personnel? On raconte sa vie sur les réseaux sociaux, on montre ses cicatrices, on montre son échographie, on montre avec qui on mange, avec qui on vit, on photographie sa tenue du jour dans l'ascenseur et personne ne nous y oblige. Alors pour les téléphones, eh bien c'est aux autres de ne pas écouter et pas à moi de se cacher. Pourquoi pas? Moi, je me souviens de mon premier téléphone. C'était en 1998 et j'avais dit cette phrase définitive. Je ne téléphonerai jamais dans la rue. Jamais j'imaginais qu'on irait jusque-là. Vous non plus, j'imagine. Mettez quand même votre casque si vous nous appelez. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première, c'est vous, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Pardon, vous êtes à Montreuil.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Bien, je disais que l'autre, dans le bus... J'étais à un endroit où il y avait quatre personnes et juste à côté de moi, il y a une personne qui parlait. Oui, tu comprends, pour convaincre les gens, il faut avoir beaucoup de tact. Et si jamais ils ne te plaisent pas, là, tu les envoies balader. Et alors, je me suis tournée vers elle. Je dis, mais madame, la première chose quand on veut avoir du tact, c'est de ne pas parler aussi fort que vous le faites et nous faire profiter de votre conversation. Je ne l'écoute pas, je l'entends. Elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Mais de quoi vous vous mêlez ?»
Et ben voilà.
Et comment... les deux personnes en face de moi ont fait un signe de tête comme quoi ils approuvaient ce que je disais, mais ils n'ont rien dit.
Ouais. Et du coup, vous êtes restée dans le tram ou dans le bus, Jacqueline, ou pas?
Ben non, là, c'était ma station, et puis bon, j'ai un tempérament un petit peu vif. J'avais peur de déborder, de dire trop de choses, de me mettre en colère. Et j'ai pas eu envie de le faire, voilà.
Merci beaucoup Jacqueline pour votre témoignage et pour cette entrée en matière. Il y en a plein qui ont des anecdotes à raconter un peu comme la vôtre. Je voudrais quand même, avant de vous présenter les invités, vous lire le message de Kat sur WhatsApp qui dit ceci: ne pas oublier ceux qui gardent le bip-bip pour taper leur message. Pardon, parce que alors moi je l'ai le bip-bip, je voulais juste dire ça, voilà, pour commencer cette émission. Pour discuter ensemble... Et jusqu'à 20h, il y a Lilia Hassen qui est avec nous. Bonsoir Lilia.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes journaliste, vous êtes productrice de l'émission, etc. sur France Inter. Et vous avez écrit Panorama chez Gallimard en 2023, qui a été Renaudot des lycéens, qui est d'ailleurs en poche. Et c'est ça la raison pour laquelle on voulait vous inviter, parce que ce livre est une dystopie dans un monde où tout le monde vit derrière des vitres. Donc des immeubles transparents, rien n'échappe à personne. Parce qu'après tout, refuser de montrer dans ce monde du futur que vous nous dessinez, c'est se dissimuler. Et cette ligne de partage entre le privé et le public, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Il y a aussi David Le Breton qui est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et vous avez écrit La fin de la conversation aux éditions Métallées en 2024. Ben, je vais commencer avec vous, monsieur Le Breton. Des témoignages comme celui de Jacqueline qu'on vient d'entendre, on en a plein. Qu'est-ce que ça signe à votre avis? Est-ce que ça signe des gens ou est-ce que ça signe une époque?
Non, ça signe à la fois une époque et des gens. Évidemment, il y a une espèce de cassure sociale gigantesque qui s'est opérée à partir de 2009-2010, c'est-à-dire le moment où le smartphone est apparu avec la connexion Internet à haut débit. À partir de ce moment-là, évidemment, il y a eu une espèce d'invasion de l'attention de beaucoup de nos contemporains autour, derrière leur écran. Et puis, donc déjà, une libération de la parole qui parfois peut être extrêmement agréable. agaçante dans la mesure où elle envahit l'intimité des autres, elle envahit la solitude ou le désir de tranquillité des autres. Et puis aussi, comme les auditeurs viennent de le pointer là, il y a le fait que de plus en plus, et ça me frappe aussi, de plus en plus de gens écoutent des vidéos ou mettent leur haut-parleur quand ils sont en train de parler, alors qu'évidemment la voix sur haut-parleur, c'est une voix criarde, c'est une voix très agaçante, et indépendamment du fait d'ailleurs que les conversations en public comme ça sont toujours intrusives, parce qu'on a que faire évidemment de la vie privée des autres, et puis parfois ça vient nous empêcher de nous concentrer, de lire, de réfléchir.
Lilia Hassène, il a raison de David Le Breton de nous dire que effectivement c'est la 4G qui change tout, le fait qu'on est de toute façon bien techniquement où que l'on soit, mais on a quand même une relation à l'intime qui a complètement changé. Alors est-ce que c'est la relation à l'autre? Est-ce que c'est la relation à l'intime? C'est quoi qui a tellement changé en même temps que cette évolution-là?
Alors moi j'ai le sentiment qu'on s'est construit des bulles. Donc on est dans des bulles individuelles.
Donc on croit qu'on est on croit qu'il n'y a que nous qui entendons cette conversation, même quand elle est en haut-parleur, en fait.
On ne fait plus attention aux autres, mais de manière générale. Moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, je suis entrée dans le métro, j'étais enceinte de 7 mois, personne ne m'a regardée, parce que les gens étaient plongés dans leur téléphone. Alors ça, c'est une, entre guillemets, une violence silencieuse, parce qu'effectivement, ce n'est pas des gens qui parlent au téléphone, mais c'est des gens qui sont complètement dans leur téléphone, qui sont absorbés par leur téléphone, et de la même manière, les conversations téléphoniques à voix haute disent aux autres « Vous n'existez pas, je suis dans mon espace privé, public, tout est mélangé. » Et c'est vrai que je pense que l'intrusion de l'intime dans l'espace public, que ce soit via les réseaux sociaux, via tout ce qu'on connaît, participe de tout ça.
Après, ce que je trouve assez fascinant, c'est que effectivement, vous parlez d'intime, Lilia Hassène, qu'on soit en haut-parleur pour dire rapidement « N'oublie pas d'aller chercher le pain » ou alors « Est-ce que tu as été chercher les enfants ?» Mais on a vraiment des conversations, des vraies conversations. Enfin, je pense à cette femme qui téléphonait à sa mère, là, dont je parlais tout à l'heure, etc. Et c'est ça qui est très impressionnant, en fait. Parce que c'est pas seulement, effectivement, la bulle, et je ne sais pas qui il y a autour de moi, je m'en extrais, mais c'est aussi, en plus, je donne de moi, quoi. Je me déshabille aussi dans le métro, dans le tram ou dans la rue.
Alors moi, j'ai une petite déformation professionnelle, c'est qu'en tant que romancière, j'adore écouter les conversations.
Bah forcément, ouais.
Moi, ça me dérange pas tant que ça.
Alors, message de Lilia Hassène, continuez à écouter avec le haut-parleur.
Moi, ça me nourrit, je trouve ça fascinant, des gens qui parlent très fort pour raconter leur vie. Mais c'est vrai que, pour peu qu'on ait envie de lire dans le métro, dans le bus, on est dérangé. Et c'est vrai que c'est quand même des conversations, c'est pas que je te rappelle, ça dure pas 2 minutes, jusqu'à ce que quelqu'un, en général, arrive et finissent par dire à la personne de bien vouloir cesser son appel. Mais c'est toujours très mal pris, et ça donne lieu à beaucoup d'agressivité en général.
Ce que ça dit aussi, David Le Breton, effectivement, et Lilia l'a un peu évoqué, c'est qu'au fond, chacun est dans la bulle de son téléphone et ne se rend plus compte de ce que fait l'autre et de ce qu'il entend. Est-ce que ça veut dire que du coup, si j'écoute mon téléphone très fort, en fait, j'entends plus celui de mon voisin qui l'écoute lui-même, d'ailleurs, très fort?
Oui, effectivement, il y a une indifférence à l'autre. Le smartphone permet de faire un monde à soi tout seul, donc on n'a plus du tout besoin des autres. Mais je suis un peu gêné qu'on utilise d'ailleurs le terme de conversation à propos de ces discussions téléphoniques, parce que pour ma part, j'oppose vraiment la conversation à la communication. Et là, avec le smartphone, on est plutôt dans la communication. Alors, qu'est-ce que c'est la conversation? C'est justement un visage à visage, c'est une présence, c'est un face-à-face, mais donc c'est une présence par corps, en quelque sorte, c'est un engagement, c'est une attention à l'autre. Il y a une place pour le silence également. C'est une conversation, c'est une profonde reconnaissance mutuelle. La communication, c'est à l'opposé. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage. Il y a une sorte de zapping, avec une attention flottante. On est à peine attentif à l'autre. Il n'y a pas de silence non plus. Il y a des pannes, évidemment, quand vous n'entendez plus l'autre. Alors, quand on est ensemble à converser, on peut se taire ensemble, ouais. C'est une partie de l'amitié. Mais par contre, au téléphone, non, c'est « je t'entends plus, je te rappelle, ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Ce qui, d'ailleurs, alerte tout le monde dans le wagon ou dans le train ou ailleurs.
Puisque vous êtes là-dessus, et justement sur la différence entre la conversation, la vraie conversation et cette communication, je voudrais qu'on écoute Simon qui est à Metz. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, ma question, elle était peut-être déjà un petit peu répondue par M. Le Breton, mais je peux la prolonger éventuellement.
Allez-y.
Je trouve les conversations entre personnes qui sont présentes dans le train peuvent faire autant de bruit finalement, et je m'interroge pourquoi elles sont plus tolérables, alors que finalement, quelqu'un qui fait du bruit avec son téléphone, tout de suite, ça agace, alors que deux personnes qui discutent l'une à côté de l'autre, ça agace moins. Et puis, derrière ça, peut-être, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce que c'est la personne qui demande, parfois, que le silence soit fait, qui se retrouve engueulé par les autres passagers, parce que finalement, bon, ça fait deux fois plus de bruit, donc si au moins celui qui voudrait le calme souhaiter, ben, ça diminue le volume sonore.
Ben voilà, ben ça fait plaisir à Thibaut de l'autre côté de la vitre, parce que lui aussi, il s'est fait engueuler, le pauvre, quand il a demandé le casque. Je trouve ça intéressant, je vais vous poser la question à tous les deux. Lilia Hassen, d'abord, Simon nous dit, mais au fond, quand il y a deux personnes qui parlent fort dans un train, par exemple, c'est tout aussi gênant que quelqu'un qui parle tout seul avec son téléphone.
Moi, je ne mets pas du tout ça sur le même plan, parce que déjà, le bruit du téléphone n'est pas du tout le même. C'est quand même un son, un son qui agace,
ouais, ouais.
Qui, moi, personnellement, me tend. Et puis, c'est vrai qu'il y a une chose, en fait, qui me frappe dans tout ça, c'est l'absence de conversation entre passagers, peut-être. C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que vous avez discuté avec un inconnu dans le bus ou dans le métro,
c'est très rare.
Ça, j'ai l'impression que ça n'arrive plus. Ce que le livre pouvait provoquer, c'était, voilà, moi aussi je l'ai lu, ça m'est arrivé autour d'un livre d'avoir une conversation. Et c'est ce que je regrette le plus. Après, effectivement, quelqu'un qui parle très fort dans le métro à un ami, c'est pareil, c'est une forme d'incivilité. Mais il y a une différence entre une conversation, effectivement, dans le métro, et quelqu'un qui est en haut-parleur, et qui dérange tout le monde.
Votre avis là-dessus, David Le Breton, entre deux personnes même qui parlent trop fort, en fait, dans le train ou dans le métro, et la conversation avec le haut-parleur?
En fait, évidemment, quand on entend une conversation dans le train, par exemple, on n'est pas du tout gêné, parce qu'on est dans la banalité de la condition humaine, dans la familiarité. On est entouré, évidemment, de paroles. Il ne s'agit pas pour nous de dénoncer la parole. Mais la conversation au téléphone, c'est un autre statut de la voix. Ce sont d'autres intonations. Parce que finalement, quand on parle au téléphone, au smartphone, il y a une volonté de conjurer l'absence de l'autre par tout un tas d'accentuation de la parole, ce qui fait que quand vous êtes en train de lire, par exemple, vous n'avez pas du tout fait attention que devant vous et derrière vous, il y avait des gens qui parlaient. Par contre, dès que quelqu'un commence à parler, déjà ça commence par le « allô, tu m'écoutes », etc. Là, immédiatement, vous êtes en alerte, parce qu'on est effectivement dans des ritualités sociales qui font que ce type de parole, ce type d'attention, d'intonation plutôt, est lié vraiment au smartphone, à la discussion téléphonique. Parce qu'il n'y a pas la présence, il n'y a plus le corps de l'autre, il n'y a plus le visage de l'autre. Donc il faut surcompenser.
Il y a Fred qui nous dit sur WhatsApp, je vous confie sa remarque parce que ça me fait rire. Le problème de ces égoïstes qui parlent à haute voix avec leur téléphone, c'est qu'on n'a que la moitié de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre ce que répond l'interlocuteur. Comme ça, on a tout le film et tant qu'à faire.
Oh, moi, j'aime bien imaginer la suite, c'est pas grave.
J'ai trouvé des ressemblances en vrai, en lisant Panorama. Lilia Hassen, parce que au fond, ces gens qui sont tous très transparents, ce qu'ils disent, c'est puisque je ne fais rien de mal et puisque je ne dis rien de mal, je vois vraiment pas pourquoi je me gênerais, en fait. C'est comme si on était passé à un stade d'après, en fait, qui dit mais si je dis rien de répréhensible, je vois pas où est le problème, en fait. À la fois le dire et le montrer. Enfin, vous avez l'une de vos j'ai beaucoup aimé la jeune femme qui fait sa gym et qui sait que les pompiers sont en train de la regarder puisqu'ils sont derrière des vitres et qui dit non mais ils ont qu'à regarder à côté au lieu de me regarder moi. Et exactement comme dans un métro ou dans le tram, quelqu'un pourrait dire « Non mais, ben, regarde par la fenêtre et tu m'entendras plus. » Enfin, vous voyez ?
Oui, c'est ça, c'est comme si c'était... On dérangeait presque la personne qui dérange. La question du « j'ai rien à cacher », la question de « je fais mon sport devant les pompiers », elle m'intéresse aussi justement sur la question du téléphone, parce que demain, peut-être que... peut-être qu'on fera tout ça.
Mais c'est ça que ça veut dire.
ça veut dire que qu'après tout, effectivement, si c'est pas condamnable, ce qui n'est pas condamnable est permis, et ce sera un enfer. Mais on considérera peut-être qu'une conversation par téléphone vaut une conversation. Après tout, le monde virtuel vaut le monde réel.
Et que les conversations seront toutes finalement haut-parleurs. Là-dessus, David Le Breton, je disais en plaisantant moi que quand j'ai eu mon premier téléphone en 98, je disais mais je ne téléphonerai jamais dans la rue. Et puis je me suis mise à téléphoner dans la rue. Et puis dès qu'on a commencé à attacher des casques à nos téléphones. C'était ridicule, on a l'impression que les gens parlaient tout seuls. Et on a tous dit, mais c'est ridicule, ce type est ridicule, on a l'impression qu'il parle tout seul. Et puis on a fini tous par acheter le casque et on parle tous tout seul. Qu'est-ce qui nous dit qu'à la fin, on ne sera pas tous en haut-parleur, au fond, hein ?
Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque que vous faites, mais je crois pas quand même que cette parole à voix haute, envahissante, etc., un jour elle entre vraiment dans nos mœurs, parce qu'elle est quand même invasive, elle est intrusive, elle nous fait rentrer dans des histoires de vie qui ne nous intéressent absolument pas, et puis surtout elle nous empêche parfois d'ailleurs de converser avec nos proches, elle nous empêche de lire, elle nous empêche de méditer, de regarder le paysage, et puis indépendamment de ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans les trains, plus personne ne se parle, dans les transports en commun, plus personne ne se parle, même dans les restaurants d'ailleurs, c'est époustouflant d'entrer dans une salle de restaurant, vous voyez 10 personnes qui se retrouvent, qui ne se sont pas vues depuis des jours ou des semaines, et tout le monde se précipite derrière son écran pour regarder les mails, les SMS, etc. C'est d'une banalité, hein, c'est du quotidien ce genre de choses. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous hérisse, qui nous fait mal, parce qu'en effet, il y a une perte de la reconnaissance de l'autre, c'était ça la civilité, hein. C'était la prise en compte de la souveraineté des uns et des autres. Ça s'appelait le respect, ça s'appelait le tact. Et aujourd'hui, c'est en train un peu de disparaître. Ceci dit, dans mon expérience, moi qui prends énormément le TGV, quand j'entends quelqu'un qui parle au téléphone, je me lève immédiatement pour dire aller téléphoner sur la plateforme. Mmh. Je n'ai jamais eu de personne me disant mais de quoi vous mêlez-vous ? Ça ne concerne que moi. Généralement, les gens vont effectivement téléphoner sur la plateforme. C'est vrai qu'au retour, je vois souvent des regards assez hostiles, assez furibonds.
Après, c'est fou d'imaginer quand même, David Le Breton, que désormais il y a des wagons silencieux, en fait.
Non, c'est vrai, vous avez...
Et en fait, je vois bien l'idée, quoi, mais ça me ferait presque de la peine, finalement.
Oh, non, je trouve que c'est précieux, effectivement, parce que c'est agaçant dans des pays, justement, où il n'y a pas vraiment de civilité. Par exemple, en Suisse, dans les trains, tout le monde téléphone. Il n'y a pas d'annonce des contrôleurs pour dire « s'il vous plaît, passez vos téléphones ailleurs ». Donc ça devient un peu agaçant quand même. Ou alors on change de place. Bon, là, pour ma part, je n'interviens pas si je suis en Suisse, par exemple, mais je change de place pour être plus tranquille.
Yacine, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, j'ai un souvenir qui m'est revenu en vous écoutant. Je me suis souvenu qu'au Japon, il y avait une publicité. Je suis partie au Japon il y a quelques mois. Et il y avait une publicité pour des casques qui permettaient d'avoir des conversations téléphoniques sans qu'on nous entende. Mmh. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit qu'en fait, la suite logique de téléphoner dans la rue, de téléphoner avec un kit main libre, ce sera de pouvoir téléphoner dans les transports en commun sans déranger personne. Et grâce à la technologie, donc ce sera possible. Et effectivement, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a à la fois une intolérance totale au bruit. On ne supporte plus les enfants, par exemple.
Mmh, c'est vrai. Voilà. Mmh. Ça fait l'objet d'un téléphone sonne, d'ailleurs.
Voilà. Mmh. Donc en fait, c'est deux mondes. Enfin, à chaque fois, on est dans des extrêmes. En fait, tout est très polarisé.
Au fond, les bulles des uns et des autres se télescopent.
Et voilà,
et parfois,
c'est ce qui frappe.
S'explosent l'une l'autre. On a Laurent l'appli France Inter qui dit ceci. Nous retournons à une société de l'oralité. L'écrit est mort. Bien que le big data soit sous forme écrite, les interfaces homme-machine et homme-homme sont maintenant sous forme vocale. Par exemple, nous dit Laurent, je ne reçois plus que des vocaux de mes enfants, l'écrit n'existe plus, l'IA générative vocale, l'explosion des podcasts, etc. Donc c'est l'audio maintenant qui envahit notre société, notre espace, et donc le son, y compris le son des autres. Qu'est-ce qu'on dit de cette remarque de Laurent, David Le Breton ?
Oui, à la fois c'est juste, et puis en même temps, c'est quand même, on est en train d'assister à une dégradation de la langue, hein, qui est même assez spectaculaire dans les collèges, dans les lycées, voire même à l'université dans les premières années, au regard de mon expérience, parce qu'on a affaire à des élèves, des étudiants qui ont passé leur temps à s'envoyer des SMS et qui donc cassent la langue, la réduisent, etc. Donc c'est une oralité quand même, une oralité qui pose un certain nombre de problèmes de mon point de vue. Mais c'est vrai que l'écrit, en tous les cas, est en train est beaucoup abîmé, ça c'est clair.
Bonsoir Clément. Clément, est-ce qu'on a perdu Clément ?
Vous m'entendez ?
Ah, mais je vous entends très très bien. On vous écoute très, Clément, très soyez le bienvenu.
Oui, voilà. Alors, je n'ai pas de smartphone. j'ai refusé d'en avoir un à l'époque où c'est arrivé.
On va vous mettre sous verre, Clément.
Pardon ?
On va vous mettre sous verre.
Oui, j'espère bien, mais je vais continuer longtemps.
D'accord.
Et je ne serai pas le seul, et j'aurai pas tous les problèmes auxquels vous vous posez, je pense, actuellement. Et Et le truc que j'ai vécu et que je théorise depuis quelques années quand même, c'est que ces histoires de réseaux sociaux, le mot social, le socio, il faut le changer. C'est des réseaux d'ego, tout simplement. Pour cultiver l'ego, il n'y a pas mieux. Et attention, parce que Madame Synthèse, vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui se passe en Amérique actuellement, machin et ça. Les réseaux d'ego finissent par des réseaux fachos.
Je vais vous laisser cette conclusion, Clément. On va croiser les doigts parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego en ce moment. Donc attention, mais j'ai entendu votre association. Je trouve ça intéressant. Réseau d'ego, de toute façon, Lilia Hassen, bien sûr. Et au fond, ça dit pareil. C'est une histoire d'ego quand on a une conversation privée et qu'on l'a pour tout le monde.
Ah, moi, j'aime bien cette question des réseaux sociaux parce que je rencontre beaucoup de lycéens depuis que j'ai eu ce prix Renaudot des lycéens. Mmh. Et souvent, ils me disent mais madame, vous êtes contre les réseaux sociaux. Et ce que je leur réponds toujours, c'est que je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je suis contre les réseaux quand ils deviennent asociaux, quand ils deviennent des modes d'exclusion, quand les gens viennent à ne plus communiquer, ce qu'ils deviennent bien souvent. La partie joyeuse des réseaux sociaux, c'est quand effectivement ça permet de fédérer, de créer des associations. Et donc il y a ces deux visages des réseaux sociaux, pour nuancer ce que vient de dire le monsieur. Mais c'est vrai que cette question du téléphone, de l'oralité. En fait, moi, j'ai l'impression, ce que je disais en début d'émission, mais de bulles comme ça qui sont les unes à côté des autres et qui visent essentiellement au bien-être personnel. On ne fait plus tellement attention à la personne qui est à côté de nous. Sur les réseaux sociaux, c'est poussé à l'extrême parce qu'effectivement, chaque fenêtre Instagram, c'est une petite fenêtre sur nos vies. Et après tout, c'est vrai que si on montre sa chambre à coucher, on se filme en train de se brosser les dents, pourquoi pas donner nos conversations, pourquoi pas ouais. Enfin, de toute façon, les gens se filment aujourd'hui sur les réseaux en train de raconter leur vie tout le temps. Donc je pense qu'effectivement, c'est aussi ce qui jette un trouble quand on est dans les transports et qu'on entend Madame Michu raconter sa vie. Comme on a passé 3 heures avant à entendre une femme qu'on ne connaît pas, non, pas raconter sa vie, elle aussi, ça perturbe tout.
Mais c'est marrant parce que dans cet égo-là, je repense à une phrase que j'ai lue chez vous, où et c'est au début, cette femme dont le mari l'a beaucoup trompée, puis qui arrête de le faire aujourd'hui, maintenant qu'en plus tout le monde vit derrière des vitres, et elle a cette phrase, elle dit « Je ne craignais plus de le perdre, mais on n'avait plus rien à se dire ». Et au fond, ça dit ça, l'extrême transparence et le fait de jeter sa vie à tout le monde, dans le tram, dans le bus et sur les réseaux sociaux de la même manière.
Ça
à
dit
la
perte
fin,
de confiance.
On n'a plus rien à se dire.
Ça dit la perte de confiance, en fait. C'est ça qui me terrifie dans cette notion de transparence qui est jetée à tout va, qu'on entend dans la bouche des hommes politiques. La transparence poussée à l'extrême permet de ne plus se faire confiance, ce qui est quand même dramatique. Effectivement, si je sais tout de votre vie, j'ai plus besoin de vous faire confiance. Pour donner ma confiance suppose que je ne sache pas des bribes entières de la vie de mon compagnon, sinon j'ai plus besoin. Et c'est moi, c'est ce qui me terrifie le plus dans tout ça. C'est la manière dont tout doit être dit, tout doit être montré. Et donc finalement, on perd complètement. Et c'est ce qui crée aussi beaucoup d'agressivité finalement dans ces réactions. C'est que le moindre contact physique, la moindre interaction devient une agression. Quand vous disiez en début d'émission que le rédacteur en chef s'était fait retoquer après avoir demandé à cette jeune femme de... Ouais. En fait, ça dit ça. C'est en fait, tu rentres dans mon espace. En fait, tu m'approches. Déjà, tu m'approches.
Tu m'approches, tu rentres dans mon espace. Je suis en train d'avoir une conversation privée. Donc, je suis dans une bulle et moi, je ne t'ai pas vu, en fait. Il y a une chose qui m'intrigue, David Le Breton. D'abord, il y a cette remarque de Julie. Attendez, il faut que je trouve mes lunettes d'abord parce que sinon, je n'arriverai pas à la lire. Oui, et qui dit ceci, je ne voudrais surtout pas vous piéger, mais qui nous demande, David Le Breton, je me demande ce qu'il en est à l'étranger avec cette nouvelle habitude horripilante de faire profiter à tous de nos conversations téléphoniques. Ouais. D'abord, est-ce que tout le monde fait la même chose? Et puis j'ai une question subsidiaire en fait, David Le Breton, alors c'est vraiment un truc de ma génération, mais autrefois quand on disait « je t'appelle » de loin, le signe qu'on faisait c'était le pouce et le petit doigt devant les oreilles. Aujourd'hui c'est même plus le geste qu'on fait lorsque l'on téléphone. Est-ce qu'on perd aussi ce geste-là? Je trouve ça intéressant, quand on dit à quelqu'un « je vais t'appeler », est-ce qu'on figure un téléphone qu'on met devant son visage maintenant?
Alors oui, quelques mots quand même sur cette idée de réseau d'ego, parce que je trouve que c'est une très 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 belle formule. Et en effet, on est de plus en plus seul Mais ensemble, pour reprendre le titre du livre de Thierry Turcole, un seul ensemble, ça caractérise absolument notre société, une sorte d'autisme social où on est chacun dans sa bulle, les uns à côté des autres, sans plus avoir de reconnaissance mutuelle. Et avec, en plus, s'agissant par exemple des adolescents qui sont parfois une dizaine d'heures derrière leur écran, vous savez que la santé publique montre que depuis 2012, en gros, vous avez une augmentation absolument terrifiante de l'anxiété des ados, de la dépression adolescente, des tentatives de suicide, des suicides, du sentiment d'isolement également chez les ados. Donc vous voyez, peut-être les personnes qui sont le plus derrière leur écran, celles qui communiquent le plus, sont celles qui se parlent le moins, hein, et qui sont de moins en moins ensemble et qui se sentent finalement à l'écart du monde, en souffrance. Voilà, ça montre bien que la communication n'est pas du tout la conversation, parce que dans la communication, il n'y a pas justement cette présence physique de l'autre. Voilà.
Bah alors, donc est-ce que tout le monde fait la même chose partout, dès lors qu'on a le même appareil dans le monde ?
C'est un phénomène planétaire, ouais. Vous avez raison, j'ai vu ça. Donc, moi aussi, en voyageant dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus d'îles où on puisse justement être tranquille dans une relation... Retrouver la condition humaine classique, finalement, depuis l'origine de l'homme. Parce que ce qui a provoqué l'invention de l'humanité, ce sont quand même les premières paroles, sans doute les premiers cris autrefois, il y a des millions d'années. Mais de toute éternité, c'est la parole, c'est la conversation, c'est le visage à visage, le corps à corps qui a présidé aux relations sociales. Et depuis une quinzaine d'années, ce lien social est énormément mis en difficulté, avec un isolement grandissant de nos contemporains.
Bah écoutez, puisqu'on essaye de quitter un peu la France et de se rendre compte que tout le monde agit à peu près de la même manière, peut-être une voix discordante, et c'est la vôtre, Samir, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, oui, donc je voulais témoigner parce que j'ai pas mal voyagé et j'ai notamment dans certains pays pas mal entendu le haut-parleur. Et à côté de ça, donc pour revenir sur la question des transports en commun notamment, je me questionnais sur le fait d'entendre quelqu'un au téléphone en haut-parleur et en parallèle d'entendre un groupe de 4-5 personnes qui parlent entre elles avec le même volume sonore. Pourquoi dans un cas de figure ce serait plus dérangeant que dans l'autre ? Sachant que les transports en commun, on le sait, sont déjà bruyants par défaut. Et au-delà de ça, sur le fait de rester fixé sur son téléphone, moi je suis né dans les années 80, en prenant les transports en commun très régulièrement plus jeune, je me souviens quand même d'avoir un public qui était majoritairement les yeux fixés sur son 20 minutes ou sur son métro, avec les écouteurs du lecteur MP3 ou
Mais du coup, il lisait les journaux. Alors, pardon de pêcher pour ma crèmerie, mais il lisait les journaux et c'était quand même...
C'était l'opportunité de conversation aussi.
Et c'était un autre monde, si je puis dire, que cette période-là. Y a Magali qui nous parle, et pour prolonger ce que dit Samir au fond, qui nous parle du fléau des vocaux. Surtout si on ne veut pas les écouter en public sans casque. Et alors, elle dit cette phrase que je trouve hyper intéressante. Elle dit, Magali, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre avec un casque continuellement ? Mais vivre avec un casque continuellement, enfin... Moi, comme beaucoup de gens, j'ai des casques sans fil qui isolent aussi du bruit extérieur. Ça veut dire que c'est la bulle à l'intérieur de la bulle. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le diable qui se mord la queue, Lilia Hassen.
Ah oui, alors les vocaux, ça devrait être interdit.
Ah, mais je suis d'accord, ne m'envoyez pas de vocaux.
Et puis les vocaux, ça dit exactement tout de la communication justement dont on parle. C'est-à-dire qu'un vocal n'appelle pas de réponse, c'est pas une conversation.
Ils ont des conversations, je t'envoie un vocal, je te renvoie un vocal.
Oui, mais par exemple, moi qui ne veux pas participer aux notes vocales, typiquement si je reçois une note vocale et que je suis dans le métro, alors déjà il faut que j'ai un casque, effectivement. Là, il se trouve qu'en ce moment, il est en panne. Donc si je veux l'écouter et que je pense que c'est urgent, je me retrouve à le mettre en haut-parleur. Donc là, je dérange. Et puis, donc je le mets pas fort, mais quand même. Et puis ensuite, si je veux répondre, moi je fais pas de note vocale, donc je me retrouve à répondre à l'écrit. Il y a une asymétrie de la conversation, puisque l'autre personne répond plus vite, avec des phrases beaucoup plus longues. C'est des conversations entre guillemets, mais c'est plus des conversations. Et moi, je suis très très gênée par les notes vocales, effectivement.
Qu'est-ce que vous pensez des notes vocales, vous, David Le Breton ? L'autre utilisation du téléphone. Enfin, on a tous dans notre entourage des gens, que ce soit d'ailleurs les millénials ou la génération d'en dessous, la génération Z. On se demande, enfin, leur téléphone sert jamais à téléphoner.
Puis on s'écoute parler.
Voilà.
Non,
à aucun moment.
Oui, parce que dans la conversation justement, ou même dans la discussion via le téléphone, on est quand même un peu dans l'incertitude. Vous commencez un propos peau et vous ne savez jamais très bien combien ça va, comment ça va finir et combien de temps ça va durer. Donc chez les toutes jeunes générations, il y a cette volonté de contrôle, de maîtrise de la parole, alors que le vocal, justement, ça permet de dire, voilà, je te convoque, je n'ai plus besoin de toi, je te rappellerai, etc. C'est la présence facultative, en quelque sorte, des autres autour de soi. Mais j'ai aussi envie de dire qu'au-delà du vocal, c'est simplement le fait de voir les gens marcher dans la rue hypnotisés par leur écran, puisque maintenant, dans toutes les villes du monde, vous ne croisez plus aucun regard, mais uniquement des gens qui sont prosternés, comme je dis souvent, pour employer exprès d'ailleurs un vocabulaire religieux, sont prosternés sur leur écran. Ils ne voient pas d'ailleurs où ils vont, où ils marchent. Quand on fait du vélo comme moi, on passe son temps à éviter les gens qui marchent sur les pistes cyclables sans faire attention, qui traversent devant vous sans faire attention, tellement ils sont absorbés par leur écran. Voilà, donc là aussi, ça renvoie à cette forme d'autisme social, de bulle. La bulle, elle est partout. Elle est à la fois orale, mais aussi visuelle, dans l'indifférence à l'environnement. Alors que pourtant, on vit dans la ville, on vit avec les autres autour de soi, mais non. Beaucoup de nos contemporains n'ont plus du tout ce sentiment-là.
Voici.
Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, la baisse de l'empathie et tout ça, le fait qu'on se met de moins en moins à la place des autres, c'est logique, il n'y a plus d'autres. On a l'impression qu'il n'y a plus personne quoi, autour de soi. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a donné l'impression d'une société fantomatique, spectrale, pour reprendre le sous-titre de mon livre. On a l'impression d'être envahi de spectres qui sont pas présents, qui sont ailleurs.
Allez, Angèle, nous attend. Secouez-nous un peu, Angèle, on vous écoute.
Oui, bonsoir. En fait, ouais, ma question est aussi une remarque, c'était de savoir si c'était pas juste un problème de boomer ou de vieux, de justement cette histoire du son des gens qui parlent, et des vocaux, etc. Est-ce que on devrait interroger les jeunes, mais et c'était peut-être pas, c'était un peu la même chose à l'époque, au début des réseaux sociaux, où on trouvait ça un peu incongru, et puis en fait, on s'y est tous mis.
Est-ce qu'on est en train d'avoir un débat de boomer, Lilia Hassen ?
Non, je crois pas.
Vous êtes beaucoup trop jeune pour être boomeuse. Hein,
Oui, moi je suis une jeune vieille, moi. Mais non, je crois pas, parce que bah, justement, je disais tout à l'heure que je rencontrais beaucoup de lycéens, et en fait, ils sont terrifiés.
Ah.
par tout ça, et en fait ils sont pires que moi.
Ah bon ?
Oui, parce que c'est les premières victimes de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont leurs parents, parce qu'il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que la génération 40-50 ans est très 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 absorbée par son téléphone aussi.
Bien sûr.
Ils ont des parents qui les calculent plus, ils se prennent toute la violence de vivre une adolescence aussi avec des corps exposés pour, je pense notamment aux jeunes femmes, des corps parfaits, de femmes qui se disent pourtant féministes, mais qui n'ont que ça à vendre. Donc ils se prennent toute cette violence-là. J'ai l'impression qu'ils recherchent justement de plus en plus aussi la communication, ce qui est bon signe. Mais ils souffrent énormément, que ce soit même je pense aux applications de rencontres, où on se parle et puis on se ghoste en fait. C'est tout ça, finalement tout fait sens. C'est ces modes de conversation, de communication, où on va commencer à se parler, on échange de phrases et puis plus de nouvelles. Et ça, c'est cette génération en souffre énormément parce qu'il y a une incertitude permanente.
Permanente. Alain est avec nous, bonsoir.
Oui.
On vous écoute, Alain.
Oui, mais je voulais faire une remarque au sujet des smartphones, c'est que ça tue totalement la communication directe. C'est-à-dire que quand vous êtes en vis-à-vis avec une personne, vous discutez avec elle, si le téléphone de cette personne sonne, elle va vous ignorer totalement. Mmh. Elle va décrocher son téléphone et au lieu de dire « écoute, je suis occupé, rappelle-moi tout à l'heure », elle va se plonger là-dedans, être hypnotisée, comme vous disiez si bien tout à l'heure. Et vous êtes totalement ignoré, vous n'existez plus vis-à-vis de cette personne. Et vous ne pouvez même pas vous dire on va s'éloigner, on va aller en forêt ou à un endroit tranquille, puisque les téléphones sont partout et passent partout. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a plus, comme vous dites, on n'a plus de vie privée, mais on peut même plus avoir d'amis avec qui discuter.
Alors n'exagérons rien, il nous reste des amis pour discuter, Alain. Essayons d'être un peu optimistes quand même. Voilà, le monde ne va pas s'écrouler tout de suite, mais j'entends votre remarque et je voudrais rajouter par-dessus celle de Clara, et c'est pour vous, David Le Breton, en plus de la remarque d'Alain, donc, le sujet des écouteurs me paraît tout aussi gênant, nous dit Clara, dans le sens où aujourd'hui, lorsqu'on parle avec des gens, en particulier avec des jeunes, dit-elle, mais je reconnais que moi aussi j'en ai, ils ont toujours des écouteurs qui sont vissés dans leurs oreilles. Et en effet, subitement, cette conversation où on a quelqu'un en face de nous avec deux trucs blancs qui lui sortent des oreilles, donc on ne sait pas en fait s'il nous écoute, si la musique est toujours là, ou le podcast est toujours là ou pas.
Oui, c'est ça que j'appelle la fin de la conversation, c'est qu'il y a énormément de parasitage dans l'attention à l'autre. Et une anecdote à cet égard que je trouve très douloureuse, qu'on m'a racontée récemment, d'une petite fille, elle a 5-6 ans, elle parle avec son père, elle a plein de choses à lui raconter. Le type est en train de pianoter sur son téléphone et lui dit « je t'écoute ». La petite, à 2 ou 3 reprises, lui dit « papa, je voudrais que tu m'écoutes ». « Eh oui, je t'écoute, je t'écoute ». Et au bout d'un moment, la petite fille, en larmes, dit « papa, je veux que tu m'écoutes avec tes yeux ». Voilà, je trouve que ça en dit terriblement long sur le monde d'aujourd'hui aussi.
Il nous reste peu de temps, mais je vois un message sur WhatsApp. « Je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans, j'ai entendu que vous vouliez la vie d'un jeune ». Ben ouais, appelez-nous Antoine, la vie d'un jeune, ça nous dit ça aussi. Il y a Aurélie qui nous dit « Est-ce qu'une loi n'a pas déjà été proposée pour interdire de mettre des haut-parleurs de parler aux haut-parleurs dans un lieu public ?» Et c'est aussi à vous que je vais le demander, David Le Breton. Je sais qu'il y a quelqu'un à Nantes, donc je le disais en introduction, qui a pris une amende de 200 euros, qu'évidemment il conteste. Et à la fois, quelle tristesse, quoi, non ? D'être obligé d'en venir à donner des amendes.
À légiférer là-dessus.
Bah ouais.
Je crois pas qu'il y ait des lois, mais je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à ça. Observons quand même qu'en Australie récemment, on a posé une majorité numérique à 16 ans. Hein, le recours aux réseaux sociaux, pas avant 16 ans. J'imagine que c'est très compliqué à vérifier, à contrôler. Mais en tous les cas, beaucoup de pays sont en train de se mettre en garde contre cette dévoration de la jeunesse par les réseaux sociaux notamment.
On va poursuivre avec cette remarque de Thévenot, et qui dit « Une jeune fille dans le train communiquait en visio avec son amie, une voyageuse lui demande de parler moins fort, réponse « Je suis dans un espace public et je fais ce que je veux ». Et on y revient, Lilia Hassen, la notion de ce qu'aujourd'hui est l'espace public et surtout de ce que nous avons chacun le droit d'en faire de cet espace public.
Bah c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'espace public c'est de faire ce qu'on veut, c'est d'être chez soi, dehors. Mais en fait, elle n'accepterait pas que des gens entrent chez elle. Enfin bon, on n'est pas. C'est l'espace public, par définition, c'est un espace où il y a des règles. Après, évidemment, il faut un peu de bon sens. C'est-à-dire qu'une mère qui décroche, qui est en haut-parleur et qui parle à son enfant, ou je sais pas, c'est pas si grave. C'est pour ça que je pense que légiférer sur ces questions-là, c'est un peu absurde aussi. On ne va pas légiférer sur tout. Mais c'est vrai que cette question de l'espace public, je pense qu'en fait on comprend plus ce que ça veut dire l'espace public. Et c'est ce qui me dérange le plus. Et je me dis, il faudrait presque avoir des cours là-dessus. On parlait des enfants tout à l'heure. Alors eux, ils ont complètement disparu de l'espace public parce qu'ils font du bruit, parce que donc il y a quand même un juste milieu à trouver, je crois.
On a Nicolas qui se marre sur WhatsApp et qui dit « J'ai beau être d'accord avec tout ce que vous dites, ça fait quand même une discussion de vieux réac, cette histoire-là. » Ça me fait rire. Est-ce que c'est pas un débat de boomer que cette histoire de gêne vis-à-vis de conversations qui sont pas discrètes au téléphone? Enfin, vous voyez, il y a une espèce d'idée que les générations s'entrechoquent là-dessus et j'en suis pas sûre, enfin, à vrai dire, je n'en sais rien. Je vais vous laisser avec deux remarques, celle de Stéphanie d'abord. Je me suis retrouvée samedi matin dans un tramway et une personne écoutait un morceau insupportable pour mes oreilles, ce qui m'a conduite à mettre le morceau que j'affectionne moi particulièrement pour me mettre le sourire aux lèvres. Tata Yo-Yo d'Annie Cordy, et la personne au bout d'un moment a éteint son portable et donc j'ai éteint le mien. La méthode n'est pas mauvaise. Et on a aussi Antoine qu'on embrasse et qui dit c'est tellement mieux d'écouter le téléphone sonne en silence dans le métro et c'est zen. Il a raison, Antoine. Merci beaucoup. La question des petits bateaux, quand même.
Je voudrais savoir pourquoi les gens, ils dorment dehors.
Et la réponse dans 3 minutes, France Inter, il est 20h.